Alphonse Allais, La Morgue. Bien que cela ne fût pas un sobriquet apéritif et ragoûtant, nous avions baptisé du nom de Morgue la crèmerie vague où quelques étudiants, poètes et moi, prenions notre maigre pitance journalière. Le patron de la morgue, un robuste auvergnat qui s'appelait Brifouillant, semblait posséder une très stricte notion du peu de comestibilité de ses produits alimentaires, car il nous les dosait avec la plus louable parcimonie. Quant à ses vins, c'était sûrement pour en atténuer la redoutable toxicité qui les allongeait d'eau fangeuse, peut-être, mais si diluvienne. Qu'importait, on avait 20 ans et des estomacs à faire rougir les autruches de M. Geoffroy Saint-Hilaire. On absorbait les bœufs dont les tranches eussent été mieux utilisées à blinder nos forts de l'Est, et l'on enfonçait des fucines arsenicales comme l'arsenic lui-même. Et cela sans le fantôme du moindre daim. De son vrai nom, la morgue s'appelait Crèmerie du Buitraine. Non pas que Dupuytren l'eût créé lui-même à ses moments perdus, mais parce que les fondateurs de l'établissement avaient cru devoir honorer la grande mémoire du célèbre chirurgien. Ce nom de morgue était venu à la suite de la double clientèle d'un Écossais et d'un Égyptien. Peut-être bien que vous ne saisissez pas le rapport. Laissez-moi finir. L'Écossais, Mac Abbey, et l'Égyptien, Macha Bey. Et nous nous étions dit qu'il suffit de 2 Mac Abbey pour constituer une morgue. Et voilà comment, sans parti pris contre Dupuytren, pourtant, nous avons fait moralement disparaître son nom glorieux d'une enseigne connue. Que la grande ombre de Dupuytren pardonne à nouveau ces anciens jeunes fous que nous étions. À la morgue venait presque tous les jours une grande, mince, jeune femme blonde à laquelle on disait « Bonjour Clarisse » quand elle arrivait pour déjeuner et « Bonsoir Clarisse » quand elle s'en allait y en dîner. Et dans le premier cas, Clarisse répondait « Bonjour !» et dans l'autre, elle concluait « Bonsoir !» Au premier abord, l'aspect de cette Clarisse n'offrait rien de spécial, si ce n'est un développement considérable du système pileux. Ses cheveux, je n'en vis tant sur une seule même tête, se plantaient très bas sur le front, s'allongeaient au long des oreilles en manière de petit favori, et foisonnait sur la nuque plus bas qu'il n'est d'usage. Sa lèvre supérieure s'estompait d'un duvet infiniment léger, mais tout de même qui faisait une drôle d'effet. Et ses sourcils, bien dessinés, bien fournis, se rejoignaient presque, lui mettant du dur dans la physionomie. Clarisse n'avait jamais qu'un amant à la fois, mais elle en changeait souvent. Voici comment la chose se passait. Les premiers jours, Machin, enfin le nouveau de Clarisse, triomphait heureux. Le monsieur qui ne s'embête pas, quoi. Peu de jours après, Machin, moins apothéotique, un air si las. Ah, pauvre Machin, pensais-je. Et puis un matin, Clarisse seule. Bonjour Clarisse, bonjour. Eh bien, et Machin, qu'est-ce que t'en as fait? Oh, il était très fatigué, alors il est allé se remettre dans sa famille. Une semaine ne s'écoulait pas sans qu'un homme et chose eût brigué et obtenu la succession du pauvre machin. Peu de jours après, la famille chose, éplorée, recevait dans son sein son jeune membre amaigri, fatigué. Oh, surmenage intellectuel, c'est bien de tes coups. Quelques machins et pas mal de choses étaient allés dans ces conditions se retremper en leur vivante province. Quand un jour, après le café, prifouillant que me retint au moment où j'allais me retirer, il avait l'air tout bête. Vous allez peut-être vous fiche de moi, dit-il. Allez toujours. Mais je vais me marier. Et avec? Avec Clarisse. Un silence de stupeur plana un instant. Mais vous ne savez donc pas, repris-je. Si, je sais, mais moi, vous savez, je ne suis pas de ces petits jeunes gens. Et l'aventure me parut si drôle que j'encourageais vivement Brûlé-Ringue dans son étrange projet. J'éprouvais même de pures délices à être son témoin. Toute rose, émue, rougissante, Clarisse fut une mariée exquise. L'adjoint qui opérait ce jour-là louchait terriblement. Et Brufoné rayonnait. Bon, il rayonna 15 jours, pas plus. Une grande lassitude le prit, et comme un insurmontable dégoût de son industrie alimentaire. Il n'éprouvait plus de plaisir à rien. S'affalait à la caisse des heures entières, inerte, incapable du moindre effort. Ses gros bras, sa gloire d'autrefois, devenaient mous et menaçaient de tourner bientôt à la chimère. Pas même le courage de mettre son vin en bouteille. « Oh, ça peut pas durer, dit-il, je perdrai ma maison. » Bon, j'ai un neveu au pays, je vais le faire venir, il m'aidera. Quel genre d'homme, votre neveu? Oh, un gars d'attaque! Alors faites-le venir. Placide, le neveu de Brûlé-Ringue répondait en effet très exactement à ce court signalement. 20 ans, une nature de montagnard vierge, superbe. Il fit monter à son arrivée une roseur d'admiration aux joues de sa tante Clarisse. Presque tout de suite, Brûlé-Ringue sentit s'améliorer son état. « Oh, ça va mieux, répétait-il, depuis que Placide est chez moi. Je savais bien que ça serait rien du tout. » Un matin, étant parti au Halles pour faire ses provisions, il s'aperçut qu'il avait oublié son porte-monnaie. Il rentra précipitamment et trouva Placide et Clarisse en un tel état d'intimité, si peu vêtus l'un et l'autre, que nul doute n'était permis. Il flanqua une épouvantable raclée à Clarisse et invita Placide à reprendre le premier train à destination du Puy-de-Dôme. Et de nouveau, sa santé chancela bientôt. C'était le moment des vacances. Avant de partir, je lui serre la main chaleureusement, disant à part moi, « Voilà un Brûlé-Ringue que je reverrai dans un monde meilleur. » En novembre, à la rentrée, je retrouvai un Brûlé-Ringue florissant comme autrefois, bien qu'un peu mélancolieux. « Eh bien, lui dis-je, ça va mieux ?»« Oh, ça va tout à fait bien. J'ai repris mon neveu. »